Bienvenue pour cette rencontre avec les éditions Wild Project, représentées aujourd'hui par Georgia Froman, qui est éditrice chez Wild Project. Donc on remercie nos comédiennes qui ont travaillé des textes, donc Cyril Atlan de la compagnie Les Atlantes et Fred Camaré, voilà, d'être là. Donc on va parler de cette maison d'édition qui nous a semblé très intéressante à inviter dans le cadre du Printemps Photorévolté, parce que Wild Project, c'est une maison d'édition consacrée exclusivement à l'écologie, qui est née en 2008 et qui a vraiment eu un essor sur les tables des librairies indépendantes avec ce fameux W qu'on peut repérer sur ses couvertures. Et c'est vrai que nous, enfin moi en tant que libraire, je suis libraire là à Cajar, c'est vraiment une collection qui est repérée avec des classiques. Au départ, c'était plutôt des traductions peut-être de classiques de la pensée philosophique écologique à travers le monde. Et puis petit à petit, c'est devenu une maison d'édition qui s'est mise à publier des textes vraiment très novateurs, à l'avant-garde de l'écologie, avec notamment des croisements d'enjeux dans toutes ces thématiques-là. Voilà, aujourd'hui, la rencontre, elle va être autour des lanceurs d'alerte. Donc évidemment, Georgia, elle va vous raconter cette maison d'édition qui est Wild Project, dans laquelle elle travaille. Mais on va prendre un angle d'approche qui est celui des lanceurs d'alerte. Et je vous rappelle qu'il y a une exposition dans le gymnase qui reprend, avec des grands panneaux, des textes et ces figures de lanceurs d'alerte dont on va parler aujourd'hui. Et donc, on ponctuera toute cette présentation par des textes lus par les comédiennes. Voilà, je vous laisse la parole et je crois qu'on commence tout de suite par du texte.
Sentinelle, extrait de Lancer l'alerte, Wild Project 2022.
Le désastre est là, qui va croissant. La prédation sur les ressources naturelles et leur marchandisation détruisent les milieux de vie chaque jour un peu plus, juste à côté de chez nous, comme à l'autre bout de la planète.
Les bouleversements climatiques qui en découlent mettent en péril les bases mêmes de notre subsistance, eau, alimentation. Les pollutions et les accaparements continuent de s'étendre et de s'approfondir de façon méthodique.
Puisqu'il est peu probable que cette méga-machine s'arrête d'elle-même, un enjeu éthique s'impose à nous toutes et tous, là où nous vivons, afin de survivre. Comment mieux résister à ce capitalisme du désastre ?
Aux quatre coins du monde, les lanceuses, les lanceurs d'alerte et leurs alliés, les sentinelles ainsi que les communautés en lutte, nous montrent des voies pour enrayer cette nécropolitique. Par l'enquête et la dénonciation des pratiques mortifères, tout comme par l'auto-organisation, ces résistantes et résistants défendent ce qui reste d'habitabilité sur notre terre.
Les désastres sociaux et écologiques que vivent depuis des siècles les peuples colonisés sont en train de s'étendre à toute la planète et de gagner nos lieux de vie. Face à l'inaction des États et à la corruption mondialisée, peut-être nous faut-il dorénavant grossir les rangs de ces résistances.
Reprendre la main par l'enquête et l'auto-organisation sur la qualité de l'eau qu'on boit, des aliments qu'on mange et des sources d'énergie qu'on utilise.
Devenir à notre tour des sentinelles du désastre pour sauver ce qui reste de bien vivre.
Merci beaucoup à Louise et à la Chamade d'avoir invité les éditions Wild Project ici aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de cette exposition, Lancer l'alerte, que vous pouvez voir dans la gymnase à côté. C'est une exposition qui a été créée par les éditions Wild Project en 2022 pour fêter les 60 ans de Printemps silencieux de Rachel Carson. Vous connaissez sans doute ce livre qui fait partie des... Peut-être que vous ne connaissez pas encore, et ce n'est pas grave, on va vous le présenter. Qui fait partie des grands classiques historiques du mouvement écologiste. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la maison d'édition, de son histoire, mais aussi et surtout des histoires, des récits que nous défendons, que nous mettons en avant à travers notre catalogue. J'ai été très touchée hier, pendant les tables rondes, d'entendre des histoires de lutte, l'histoire de la lutte ici, contre l'installation des panneaux photovoltaïques par Total sur une forêt, mais aussi d'autres récits de lutte. Je trouve que c'est important de nous raconter notre histoire, parce que le mouvement écologiste a maintenant presque un siècle. Enfin, l'écologie, ce n'est pas né hier. Il est facile d'oublier des choses. Il est facile d'oublier les victoires et de se faire gagner par les défaites. Mais du coup, cette exposition que nous avons faite en 2022, il permet de déployer notre catalogue pour raconter l'histoire des quelques lanceurs et lanceuses d'alerte, et aussi de raconter plus largement une partie, en tout cas, du mouvement écologiste. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais partir sur cet angle-là, voilà, parce qu'on est sur un territoire en lutte. Et ce qui définit les éditions Wade Project, je dirais que c'est la profondeur historique de notre catalogue, en premier lieu. Wade Project a été créé en 2008, c'est une des premières maisons d'édition en France à se spécialiser en écologie, avec quelques autres confrères et consoeurs. Nous avons passé la première décennie de la maison d'édition. Je dis nous, mais je n'étais pas encore arrivée. J'ai commencé aux éditions Wade Project en 2019, après des études en anthropologie et en traduction. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. La première décennie de la maison d'édition a été passée à importer et à acclimater en France les pensées de l'écologie. Pas qu'il n'y avait pas de pensée écologiste en France avant, il y a eu un foisonnement notamment dans les années 70, mais après ça s'est perdu un peu. Quand la maison d'édition a été créée en 2008, il n'y avait pas de table écologie en library. C'était un espace éditorial qui n'avait pas beaucoup d'existence, c'était considéré comme vraiment une toute petite niche. Et donc effectivement, pendant cette première décennie, la maison d'édition a beaucoup œuvré à traduire des classiques, mais aussi à publier certains des penseurs et penseuses de l'écologie qui ont renouvelé les pensées de l'écologie dans l'espace francophone à l'époque, comme Baptiste Morisot ou Isabelle Stengers, par exemple. Voilà, vous pouvez trouver toute une sélection de livres sur la table de library qui est dehors. Mais ensuite, la deuxième décennie que nous avons commencé en 2019, nous avons voulu vraiment le consacrer à la pédagogie, à la diffusion à un plus grand public des pensées de l'écologie. Et du coup, c'est à ce moment-là que nous avons créé notre collection de poches que vous voyez là avec le grand W. C'est aussi une décennie que nous avons consacrée à faire des nouveaux liens avec des luttes sur le terrain, dans cette volonté de contribuer comme on peut, notamment en diffusant pas que les pensées de l'écologie, mais aussi l'histoire des luttes. Et nous défendons aussi l'écologie au sens large, comme un mouvement successivement et à la fois scientifique, social, politique et philosophique. Donc pour nous, l'écologie n'est pas une niche, c'est un projet de société. Et donc tout ce qu'on fait dans notre ligne éditoriale, ça va vers les sociétés écologiques de demain. Donc, nous, on ne parle pas de transition écologique, mais de société écologique, au pluriel, qu'on veut contribuer à construire. Et donc, voilà, cette première figure que je vais vous présenter, c'est le tout premier livre que les éditions Wade Project ont publié en 2008-2009. C'était Printemps silencieux de Rachel Carson, C'est un livre qui date de 1962, qui a été tout de suite traduit en français à l'époque, mais qui était épuisé au début des années 2000. C'est un livre fondateur du mouvement écologiste. Rachel Carson est une biologiste marine de formation et c'était une des premières scientifiques à lancer l'alerte sur le scandale des pesticides auprès du grand public. C'était déjà une autrice best-seller pour ses livres sur la mer. Quand elle a écrit Printemps silencieux, c'est un livre qui a touché un public vraiment très large. Je trouve que c'est un livre qui est toujours très pertinent aujourd'hui. Et je pense que le public ici l'a bien compris. On parle beaucoup dans les institutions de changement climatique, du besoin de décarboner. Pour justifier souvent des gros projets de transition énergétique. Mais la crise écologique, Rachel Carson défend cette idée, en tout cas dans Printemps silencieux, c'est d'abord et principalement une extinction de masse. C'est une destruction de la vie sur Terre qui est causée par les infrastructures et des modes de vie modernes de façon très importante, l'agriculture industrielle. Donc on va écouter Rachel Carson.
Donc un extrait de Printemps silencieux de Rachel Carson, 1962.
À mesure que se développe l'habitude de tuer, d'éradiquer toute créature ennuyeuse ou gênante, les oiseaux deviennent la cible de plus en plus directe des distributeurs de toxiques. On entend parler de dissémination aérienne de produits aussi dangereux que le parathion, pour réglementer les concentrations d'oiseaux qui déplaisent aux paysans. Dans le sud de l'Indiana, par exemple, des cultivateurs se sont associés pour louer un avion pulvérisateur à l'été 1959 et traiter des terres alluviales au parathion. Cette région était très fréquentée par des milliers de merles qui se nourrissaient dans les champs de céréales du voisinage. Le problème posé par l'appétit de ces oiseaux était facile à résoudre. Il suffisait de remplacer les céréales cultivées là par d'autres épis plus enfoncés que les becs des merles n'auraient pu atteindre. Mais les cultivateurs avaient été persuadés des vertus des poisons et leur avion a exécuté sa mission destructrice. Ils ont eu lieu d'être satisfaits. On a ramassé environ 65 000 merles et étourneaux. Combien d'autres victimes sont restées inaperçues ? Nous ne le saurons jamais. Le parathion ne choisit pas les merles, il détruit tout. Et quel est l'effet de ce parathion sur l'homme ?
Des ouvriers qui travaillaient dans des vergers de Californie sur des feuillages traités au parathion, un mois plus tôt, se sont trouvés mal et n'ont échappé à la mort que grâce à l'habileté de leur médecin.
Qui va surveiller la campagne pour prévenir le promeneur innocent que dans certains champs, la végétation est recouverte d'un film mortel ?
Tels sont les risques terribles pris par les cultivateurs, en toute impunité, dans leur inutile guerre contre les merles.
Dans tous les cas, la même question monte aux lèvres.
Qui a pris la responsabilité de déclencher ces empoisonnements en chaîne, de lancer cette onde mortelle qui progresse en s'élargissant comme des rides créées à la surface d'un étang par la chute d'une pierre?
Qui a placé dans un des plateaux de la balance les feuillages que le scarabée aurait volés pour se nourrir et dans l'autre, les pitoyables amoncellements de plumes multicolores, les dépouilles des oiseaux victimes de l'aveugle furie des poisons insecticides?
Qui a décrété? Qui a le droit de décréter au nom de légions de personnes que l'on n'a point consultées que le bien suprême est un monde sans insectes, même s'il doit être aussi un monde stérile, privé de l'aile gracieuse d'un oiseau en vol?
Un tel choix a été fait par quelque esprit autoritaire, détenteur temporaire du pouvoir, profitant d'un moment d'inattention de millions d'humains pour qui la beauté et le monde ordonné de la nature ont encore une signification impérative et profonde.
Merci. Elle est toujours très puissante, Rachel. Hier soir, il y avait ici une soirée écoféministe. Rachel Carson, on dit d'elle que c'est une des premières écoféministes. Alors, ce n'était pas une femme qui se disait féministe, c'était le début des années 60, donc le mouvement était encore à ses tout débuts. Mais quand elle a écrit ce livre, il s'est passé plusieurs choses derrière et je vais vous en parler. Enfin, c'est une histoire qui me touche particulièrement en tant que femme, en tant qu'écologiste, aussi parce que je viens des États-Unis, comme Rachel Carson. Et donc, c'est l'histoire de mon pays. Et du coup, ce livre a été publié, Printemps silencieux. C'était un best-seller tout de suite. Des dizaines de milliers d'exemplaires vendus, c'était partout dans la presse. Et ça commençait à faire scandale auprès du grand public. Alors, le lobby des pesticides et des herbicides existait déjà à l'époque, était déjà très fort. On est en plein milieu de ce qu'on appelle la révolution verte, qui est l'industrialisation de l'agriculture, qui à l'époque semblait faire à peu près consensus. Et donc, tout de suite, les industriels ont attaqué Rachel Carson en disant que c'était une hystérique, parce que c'était une vieille fille en plus, qu'elle était folle, qu'elle était une agente communiste. Alors le FBI a pris ça très au sérieux. Ils ont enquêté sur Rachel Carson et on a trouvé qu'elle n'était pas une agente communiste. Bon. Mais surtout, le ministre de l'Agriculture des États-Unis à l'époque, qui était assez profondément dans la poche des lobbies, a aussi demandé à ses équipes d'enquêter sur le livre et de trouver une faille dans sa science. Et l'équipe chargée de ça n'a pas trouvé de faille. Elle avait trop bien travaillé, Rachel Carson. C'est le procès qu'elle fait à cette agriculture industrielle et vraiment, vraiment sans pitié. C'est une scientifique qui a bien vérifié ses sources. Et vous voyez aussi, c'est une écrivaine qui a su parler à son public et les mobiliser. Alors, qui a été mobilisée par ce livre ? Eh bien, c'était beaucoup les femmes. C'était beaucoup les femmes au foyer. C'était des femmes qui faisaient partie des clubs de jardin locaux. Et ces clubs de jardin qui sont toujours actifs dans toutes les petites villes et villages des États-Unis, c'était ces femmes-là qui ont appelé leurs députés, qui ont écrit à leurs députés, à leurs sénateurs, pour dire « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel des poisons qui sont partout dans les champs autour de nous? Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux? Pourquoi il n'y a plus d'insectes ?» Et c'est en partie ça qui a fait remonter cette histoire jusqu'au gouvernement fédéral, où le président Kennedy a créé une enquête officielle sur ce sujet qui a abouti quelques années plus tard à la création de l'Agence pour la protection de l'environnement et aussi l'interdiction du DDT qui est un des principaux pesticides de l'époque. Alors malheureusement, c'est pas la fin parce que j'ai relu ce livre il y a 2 ans alors que j'étais chez mes parents aux États-Unis et en fait elle parle de plein de pesticides et d'herbicides qui sont toujours utilisés dans l'agriculture industrielle. Donc il y a des produits toxiques où on sait très bien que c'est toxique et que ça circule dans l'environnement. Enfin, de toute façon, dès que c'est versé dans l'environnement, ça revient sur la santé humaine aussi. Mais voilà, c'est une lutte qui a été amorcée en partie par ce livre et par le mouvement populaire derrière qui a suivi. Et qui a aussi été une grande inspiration pour la génération de scientifiques qui est venue après, et dont Daniel Pauly, dont vous voyez la tête là-bas sur le livre bleu. Et Daniel Pauly est aussi biologiste marin. Et il pourrait être le fils de Rachel Carson au niveau de l'âge, mais ce n'est pas le fils de Rachel Carson, peut-être spirituellement, mais en tout cas, Daniel Pauly est né en France d'un père afro-américain et d'une mère française, juste après la Seconde Guerre mondiale. Son père était un soldat américain. Daniel Pauly, bon, il a eu une enfance extrêmement atypique. Il a été kidnappé par une famille suisse et élevé là-bas. Enfin, je vous laisse lire sa biographie pour découvrir son parcours qui est très atypique. Mais en tout cas, pour notre présentation aujourd'hui, ce qui est important avec Daniel Pauly, c'est que c'est un des plus grands experts au monde de l'halieutique, qui est la science des pêches. Qu'il a notamment travaillé dans les pays du Sud, où il se rend compte que les modèles scientifiques du Nord sur la gestion des stocks de poissons ne sont pas adaptés aux eaux tropicales. Il se met donc en enquête, à la recherche de nouveaux modèles plus adaptés. Petit à petit, il va prouver, il va découvrir avec une grande équipe de scientifiques partout dans le monde que les méthodes de la pêche industrielle, ces gros bateaux de pêche qui circulent dans les océans partout dans le monde, sont en train d'épuiser les océans. Il va prouver l'existence de la surpêche, que la pêche industrielle est en train de causer l'effondrement des populations et l'extinction de certaines espèces. Les méthodes de la pêche industrielle, il va comparer ça à une arnaque financière. Et donc, on va écouter Daniel Pauly.
Extrait des écrits de Daniel Pauly, cité dans Daniel Pauly, Un océan de combat, 2019.
Nos interactions avec les butins de l'océan ressemblent à une pyramide de Ponzi du nom de l'escroc qui inventa une technique bien particulière dans les années 1920. Sa méthode consistait à promettre des profits inimaginables financés par l'afflux de capitaux qui étaient progressivement investis. Ce type de montage financier se termine nécessairement par une bulle spéculative et l'effondrement du système mis en place. On a cru que le capital marin naturel pouvait produire annuellement une centaine de millions de tonnes. Mais c'est en réalité un montage spéculatif sur le vivant que nous avons élaboré. Le projet fut porté par rien moins qu'un complexe halieutico-industriel, une alliance entre des gros armateurs, des lobbyistes, des membres du Parlement et des économistes des pêches. Les relations entre science et politique peuvent être très tendues. Dans le cas de la FAO, la politique a clairement dominé la science sans qu'on l'on puisse incriminer les scientifiques en question. La plupart des biologistes des pêches et probablement des biologistes qui travaillent sur l'exploitation des ressources naturelles travaillent pour des agences gouvernementales. Et on attend d'eux qu'ils demeurent silencieux, même quand ils sont confrontés à des conflits d'intérêts évidents. J'insiste sur la très grande responsabilité des scientifiques en poste à l'université, qui ont en général toute la liberté de parole nécessaire afin d'alerter l'opinion.
Le public doit savoir.
Merci. Daniel Pauly, il est toujours en vie, il est toujours en activité. Il travaille en Colombie-Britannique, au Canada. Mais là, on a mis en avant en premier lieu deux scientifiques. Mais le mouvement écologiste n'est pas que scientifique, évidemment. C'est aussi un mouvement social et politique qui touche nos relations aux autres, notre intimité, notre rapport au monde. Et c'est le cas depuis ses débuts. Et un des précurseurs du mouvement écologiste s'appelle Tanaka Shoso. C'est un activiste japonais de la fin du 19e siècle, donc avant même qu'on invente le mot écosystème. Il est au Japon dans un contexte d'industrialisation très rapide, très violent, à la fin du 19e. Tanaka Shozo, c'est un paysan. Son nom, Tanaka, en japonais, ça veut dire « dans le champ de riz ». Donc, il s'appelle Duchamp, en fait. Donc, il est vraiment issu du milieu paysan japonais. C'est aussi un poète. Et il est devenu député. Il a été élu au Diet, qui est le parlement japonais, qui était relativement neuf à l'époque. Et c'est une figure énorme au Japon. Il a autant de notoriété au Japon que Rachel Carson peut avoir aux États-Unis. Et c'est un emblème du mouvement écologiste là-bas. Et sa lutte va concerner la pollution qui est causée par une mine de cuivre. C'est la mine de cuivre Ashio qui empoisonne les paysans et leurs champs, les paysans et les champs qui se retrouvent en aval de la mine. C'est une histoire qui évidemment reste très pertinente pour nous aujourd'hui. Dans un contexte où la soi-disant transition énergétique va demander d'ouvrir de plus en plus de mines dans le monde. Et l'extrait que vous allez entendre vient d'une biographie de Tanaka Shozo écrite par Kenneth Strong. Tanaka, il a un parcours humain vraiment exceptionnel. C'est un résistant non-violent. Un pratiquant du bouddhisme zen et à un moment il a été en prison après avoir démissionné du parlement où sa parole sur ce désastre minier ne se faisait pas entendre pour avoir tenté de donner une lettre directement à l'empereur du Japon. Donc on va écouter non pas cette lettre à l'empereur du Japon qui a été perdue, mais une autre lettre qu'il a écrit à un ami à ce moment-là dans sa vie où il était à un point bas.
Lettre de l'ex-député Tanaka Shozo, 11 mai 1901, cité dans Tanaka Shozo, un bœuf sous la tempête de Kenneth Strong.
J'ai couru partout. Au nom des prévenus de Kawamata, jour et nuit, et pour d'autres affaires liées à la pollution. Et je suis ennuyée jour et nuit, aussi par mon cerveau malade. Une chose sans nom est bien insaisissable, cette maladie. Cela n'a rien à voir avec le bien-être physique. Heureusement, je suis en bonne santé en ce moment d'un point de vue physique, mais mon esprit est au plus mal. Les docteurs n'y comprennent rien. En bref, cela sape ma mémoire, ma patience, ma capacité à réfléchir. C'est terrible. La pire maladie qu'on puisse avoir. L'esprit n'est pas affecté, cependant. La sincérité, la franchise, l'emportement, la colère, j'en suis toujours capable. Mais moins de plaisir, plus de douleur. La douleur, ce n'est pas moi qui la ressens pourtant. C'est le mal qui s'en est pris à notre société. Il est tellement difficile de se battre et personne ne se rend compte de la gravité de la situation, que ce soit à la campagne ou ici, à Tokyo. C'est cela qui me ronge. Je suis un grand sensible, vous savez, pas un héros. Je ressens les maux de ce monde avant le monde lui-même, c'est tout. Quoi que vous fassiez, je vous en prie, ne croyez pas que ce soit l'inquiétude qui me rende malade, d'être pauvre, par exemple. Ma maladie n'est pas une chose individuelle, c'est la maladie du monde. Si la société se remet, alors je vivrai encore 10 ans. Si elle n'arrive pas à sauver les habitants de Shimotsuke de la mort, cette année sera ma dernière. Souvenez-vous de cette prophétie.
En partie, du moins, la prophétie se réalisa. Shozo vivrait seulement 12 ans de plus. Et si la société ne se remit pas au cours de l'été et de l'automne 1901, le public prit de plus en plus conscience de la gravité du problème de la pollution et la compassion ressentie pour les victimes déboucha concrètement sur les premières tentatives sérieuses visant à soulager quelque peu leur souffrance.
Merci. Je trouve que ce n'est pas facile d'écouter la souffrance de Tanaka Shoso, mais aussi, quand je l'écoute, je me sens moins seule. Et la lutte de Tanaka n'a pas été en vain, parce que le mouvement qu'il a amorcé a abouti sur les premiers règlements de protection de l'environnement du Japon au début du XXe siècle. Grâce à une lutte populaire pour la subsistance paysanne. Et c'est aussi le cas d'un autre mouvement de subsistance paysanne des années 70 qui a lieu au nord de l'Inde, dans les Himalayas. C'est le mouvement Chipko, qui veut dire peau de colle dans la langue locale. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des luttes écoféministes. Vous voyez peut-être cette photo des femmes indiennes qui enlacent les arbres, qui se collent aux arbres pour empêcher qu'on les coupe. Effectivement, c'est un mouvement de défense des forêts paysannes contre un projet de monoculture qui était financé par les grandes institutions internationales. Et je trouve que c'est évidemment très, très pertinent ici aujourd'hui où vous défendez les arbres contre Total. Et le mouvement Chipko continue aussi encore aujourd'hui. Et une de ses figures emblématiques, qui a 80 ans aujourd'hui, qui est toujours active, c'est l'écologiste indienne Vandana Shiva. Que vous connaissez peut-être. Et Vandana Shiva, elle est physicienne de formation. Moi, je l'appelle le Rachel Carson des Suds. C'est quelqu'un qui est très engagé pour défendre l'agriculture traditionnelle, pour préserver les semences et les variétés anciennes, des variétés de culture anciennes, avec son ONG qui s'appelle Navdanya. Parce que la perte de la biodiversité ne concerne pas que les espèces sauvages, c'est aussi une perte de biodiversité dans les espèces domestiques face au rouleau compresseur de l'agriculture industrielle et la destruction des mondes paysans. On a bien vu dans les tables rondes hier aussi, donc j'en dirai pas plus davantage. Mais le père de Vandana Shiva était forestier dans l'Himalaya, et donc elle est très sensible à ces questions du rapport entre les paysans de cette région et leurs forêts, qui ne sont pas exactement des forêts sauvages, qui sont des forêts en partie cultivées, où ils peuvent chercher du bois de chauffe, sans tuer des arbres d'ailleurs, par des méthodes d'élagage qui permettent de garder les arbres en vie, tout en prenant du fourrage ou du bois de chauffe. Ces forêts sont aussi une source de plantes médicinales. Et donc, vous allez entendre un passage de son autobiographie où elle raconte sa rencontre avec le mouvement Chipko alors qu'elle était jeune étudiante.
Extrait de Mémoire terrestre. L'autobiographie de Vandana Shiva, 2023.
Il y avait très peu de routes dans l'Himalaya lorsque j'y ai grandi, si bien que la plupart de nos déplacements se faisaient à pied ou à cheval. Le travail de conservateur forestier de mon père consistait à inspecter les forêts, à les gérer et à en assurer la régénération. Pendant toutes nos vacances, nous le rejoignions pour ses tournées. Nos vivres voyageaient dans d'énormes caisses chargées sur des mules et il y avait toujours une autre caisse pleine de livres. Nous vivions comme des nomades, loin des villes, au milieu des richesses de la forêt. Cette expérience a clairement influencé ma réflexion sur la richesse et la pauvreté. Pour moi, Les forêts de mon enfance étaient la véritable source d'abondance et de beauté, de diversité et de paix. Avec ma sœur, je ramassais des fougères pour en faire des œuvres d'art. Les fleurs sauvages étaient nos perles et nos diamants. C'est pourquoi lorsque les forêts ont commencé à disparaître, j'ai rejoint le mouvement Chipko pour les protéger.
Le mouvement Chipko est une extension du satyagraha gandhien traditionnel. En s'appuyant sur la vision gandhienne du développement fondée sur la justice et la stabilité écologique, ces personnes ont silencieusement contribué à la croissance du pouvoir des femmes et de la conscience écologique dans les régions montagneuses de l'Uttar Pradesh.
En 1972, les femmes d'un village de haute altitude, Reni, ont bloqué les opérations d'exploitation forestière en enroulant leurs bras autour des arbres, donnant naissance au mouvement Chipko, littéralement s'accrocher. Le mouvement a été baptisé ainsi par Ghashyam Rathori, qui a composé des chansons folkloriques chantées par tous les enfants, femmes et hommes du Garhwal. En 1972 ont eu lieu les plus grandes manifestations organisées contre l'exploitation commerciale des forêts de l'Himalaya par des entrepreneurs extérieurs, à Uttarkashi le 12 décembre et à Kopeshwar le 15 décembre. C'est au cours de ces deux réunions de protestation que Rathori a composé son célèbre poème décrivant la méthode qui consiste à enlacer les arbres pour empêcher leur abattage.
Embrasser les arbres.
Et sauvez-les des abattages.
La propriété de nos collines.
Sauvez-la. Sauvez-la du pillage.
Merci. Alors, pourquoi Vandana Shiva parle particulièrement des femmes ? C'est parce que, comme disait une des intervenantes dans la table ronde sur l'écoféminisme hier soir, dans des sociétés paysannes traditionnelles comme celle-là, les femmes ne sont pas secondaires. Elles jouent un rôle à égalité avec les hommes. Alors ça reste une société patriarcale, et on peut regarder toutes les nuances de société patriarcale, mais on peut dire que la société paysanne dont parle Vandana Shiva ne tient pas sans les savoirs qui sont détenus par les femmes paysannes et qui sont des piliers de leur communauté, qui sont reconnus en tant que telles, qui jouent un rôle indéniable dans la subsistance de leur communauté, de leur famille. Et ces projets de soi-disant agroforesterie qui ont été promus au nom du développement depuis l'extérieur, en fait, l'idée, c'était d'augmenter le PIB en faisant en sorte que les hommes locaux deviennent des salariés. Parce que quand on fait du développement, il faut trouver du travail pour les hommes, évidemment. Du coup, les femmes sont laissées de côté. Et en plus, le projet de développement en question allait détruire la forêt dont elles dépendaient pour leur subsistance, pour soigner leur famille. Et donc, c'est pour ça que ce mouvement dont elle parle est un mouvement écoféministe. Hier, on a beaucoup parlé de Françoise Daubonne, qui est une figure importante en France. Et c'est vrai qu'en français, le mot écoféminisme a été né sous la plume de Françoise Daubonne. Mais dans les faits, l'écoféminisme est un mouvement organique qui est né à plusieurs endroits dans le monde et à peu près en même temps, y compris dans l'Himalaya avec le mouvement Chipko. Alors, Vandana Shiva, Daniel Pauly, Rachel Carson sont tous les trois scientifiques. Quelque chose qui m'a frappée depuis que je travaille aux éditions Wild Project, depuis que je me suis initiée aux pensées de l'écologie, c'est le rôle ambigu qui est joué par la science moderne. J'ai moi-même une formation scientifique je viens du sens social, mais ça reste des sciences. Et c'est vrai que l'écologie, c'est aussi une science. Et il y a beaucoup de scientifiques qui utilisent leur savoir, leur expertise pour lancer l'alerte sur la destruction du vivant. Mais la science, c'est aussi, et ça, ça se voit beaucoup dans les critiques écoféministes, c'est aussi la source de la prouesse technique qui rend possible la destruction de la nature. L'extraction minière, les pesticides, qui sont issus des avancées dans la chimie organique pour beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, c'est donc des armes de guerre. La surpêche, la monoculture dans l'agriculture industrielle. Et notre dernière lanceuse d'alerte, elle parle très bien de ce sujet-là. C'est une jeune ingénieure formée à Polytechnique. Donc voilà, vous êtes français et française, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est Polytechnique, une des plus grandes écoles d'ingé du pays, sinon du monde. Mais Jeanne Mermet a quitté sa carrière d'ingénieur très prometteuse pour déserter cette guerre contre la nature pour construire autre chose. Et donc, en conclusion, on va entendre Jeanne Mermet parler de comment, selon elle, on peut aller vers des sociétés écologiques.
Donc, un extrait de Désertons de Jeanne Mermet, 2025. Résister.
S'opposer à ce qui nuit.
Déserter.
Refuser de nuire.
Désarmer.
Empêcher de nuire. Le geste de désertion est-il un geste de désarmement ? J'ai déserté la transition énergétique industrielle, bien que j'ai privé ce beau projet d'une arme cruciale, à savoir mon cerveau. Le projet continue et il lui reste pléthore de matières grises volontaires pour relever les défis de la transition technologique. Par contre, comme beaucoup de mes camarades déserteurs et déserteuses, j'ai choisi ensuite d'utiliser cette désertion, mon statut et mon savoir, pour participer à dénoncer cette transition énergétique, pour tenter de l'empêcher de nuire, pour tenter de la désarmer.
Une désertion individuelle peut donc participer indirectement au désarmement. Mais imaginez le bordel provoqué par la démission collective et politiquement argumentée de 50 ingénieurs de Total. À l'image du boycott, la désertion pourrait désarmer effectivement si elle est massive.
Je voudrais que la désertion soit un verbe qui se conjugue non seulement au singulier et au pluriel, mais aussi à d'autres ensembles plus complexes que celui des individus. Peut-on penser la désertion comme un horizon collectif, celui d'arrêter de nuire?
À quoi ressemblerait une société qui déserte? Une société où on s'organise pour arrêter de faire la guerre et de produire des violences. Pour cela, il faut neutraliser les armes qui produisent ces violences. Il faut donc désarmer.
Si les réseaux sociaux nous font assister avec cynisme depuis octobre 2023 au massacre du génocide en Palestine, ils permettent aussi de constater le large mouvement international de solidarité qui se déploie en soutien au peuple palestinien. D'immenses manifestations, des actions ciblées sur les entreprises occidentales complices, des boycotts de produits.
Il ne peut pas incomber aux peuples qui subissent les violences de résister seuls à cette machine. Nous sommes au cœur de la fabrication de la machine de guerre. Et si nous ne sommes pas forcément responsables, nous sommes complices, car nous y participons sans le savoir, tout en bénéficiant du statu quo colonialiste. Enquête, dénonciation, désertion, démission, blocage, boycott, grève, autant de grains de sable qui permettent d'enrayer la machine à tuer coloniale depuis son centre.
Il est plus que jamais d'actualité de fortifier le mouvement antimilitariste, décolonial et anti-impérialiste.
Désarmons les complexes militaro-industriels.
Organisons des campagnes de désertion massive qui dévoilent les injustices et mettent la pression aux multinationales.
Renforçons les réseaux de résistance en nous reliant depuis le cœur des complexes militaro-industriels jusque là où leur violence se déploie.
Soyons les épines dans leurs pieds.
Les grains de sable.
Les doigts d'honneur au nez des puissants partout où on le peut.
Parce que s'attaquer à leur impunité et leur montrer qu'on est là et qu'on les voit, c'est déjà les désarmer un peu de leur arrogance.
Résistons, désertons, désarmons-les.
Résistons, désertons, désarmons-les.
Résistons.
Résistons.
Désertons.
Désertons.
Désarmons-les.
Désarmons-les.
Merci beaucoup. Alors, un petit mot de conclusion avant qu'on passe aux questions, parce que je crois qu'on a prévu un petit temps de questions. On est bon ? Ok, super. Donc, je vous invite vraiment, après la rencontre, à aller voir dans la gymnase à côté l'exposition « Lancer l'alerte ». C'est une exposition courte, ça se visite en quelques minutes. Et il y a aussi... Mais vous faites partie des gens qui lisaient tout. Oui, voilà. Voilà. Bon, après, je vous ai donné pas mal de spoilers aussi. Donc, mais il y a aussi une magnifique exposition sur la Via Campesina. Bref, vous pouvez voir plusieurs choses. Mais si vous n'avez pas encore vu l'expo Lancer l'alerte, allez-y. Aussi, je voulais juste conclure en disant qu'aujourd'hui, on a partagé les récits de quelques figures inspirantes. Évidemment, les mouvements qui se font autour, c'est collectif, mais c'est une volonté un peu de cristalliser ça autour de quelques récits forts. Les récits sont aussi très très importants dans notre catalogue, dans notre façon de raconter l'écologie. C'est pour ça que nous avons créé une collection de littérature en 2024. Donc vous pouvez aussi lire de la littérature aux éditions Wet Project. Évidemment, pour nous, l'écologie est aussi forcément décoloniale. Et nous avons créé une des premières collections en France dédiée à l'écologie décoloniale dès 2017, qui s'appelle « Le monde qui vient ». Voilà. Et du coup, les livres que vous voyez là, vous avez la collection de poche et aussi « Domaine sauvage » qui est... C'est les grands formats là qui sont. C'est la collection historique de la maison qui rassemble les grandes figures de l'écologie. Et donc maintenant vous en savez plus sur les éditions Wet Project. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'étais pas là en 2008 quand mon collègue Baptiste Anaspez a choisi le nom de la maison d'édition. Alors, ce n'est pas une... Mais du coup, je vais raconter son histoire à sa place parce que c'est intéressant. Et puis maintenant, la maison s'appelle comme ça, donc il faut l'assumer. Alors, ce n'est pas une référence au wilderness américain, qui est une notion évidemment très problématique. C'est Baptiste, à l'époque, il ne savait pas comment il allait appeler la maison d'édition. Mais il avait séjourné un peu à New York, et c'est là où il a commencé à s'intéresser à la pensée écologiste états-unienne. Et donc, quand il pensait au sujet, il pensait souvent à moitié en anglais. Et donc, sur la chemise où il gardait les papiers pour déposer l'entreprise, c'était juste écrit « Wild Project ». Le jour où il déposait les papiers, il n'avait toujours pas trouvé mieux. Donc, on est resté là-dessus. mais c'est vrai que dans l'histoire de la maison d'édition, il y a aussi l'histoire de ce contact avec les pensées de l'écologie états-unienne. Et donc, ça reste dans le nom. Ah, j'en ai pas parlé de là où on est, de l'équipe et tout. C'est pas très écologiste, pas très écologique parce que je me suis pas située. Alors, on est basé à Marseille. Donc, la maison d'édition a été créée en, quand ça a été créé en 2008, c'était à Paris, mais très vite, ça a déménagé à Marseille. Et on est à Marseille depuis. C'est une maison d'édition marseillaise. On a aussi une petite collection qui s'appelle À partir de Marseille, où on publie sur notre territoire. D'ailleurs, récemment, on a publié notre premier roman graphique qui s'appelle Marcher vers soi, par une artiste qui s'appelle Abigail Lordon, qui est partie marcher toute seule sur la GR 2013, qui est une grande GR qui fait le tour de Marseille et l'étang de Berre, à la découverte de son corps territoire. D'ailleurs, ça résonnait beaucoup avec le film qu'on a vu hier soir. Ils ont redit cette phrase-là. Voilà, donc c'est l'histoire d'une éveil écoféministe. Et donc, dans nos bureaux à Marseille, alors dans l'équipe en tout, on est 5 personnes. Donc, il y a moi-même, il y a Baptiste Lanespèze, qui est le fondateur de la maison. Il y a mon collègue Marin Schaffner, qui est aussi auteur et traducteur, et qui, lui, est basé à Mantes-la-Jolie. Qui est un membre permanent de l'équipe. Et aussi mes deux autres collègues, Gaëlle Zavato, qui est éditrice également, et Clara Vio, qui est notre chargée des ventes directes et qui s'occupe aussi de notre petit espace librairie à Marseille. Donc, si vous passez à Marseille, n'hésitez pas à venir nous voir, 12 Boulevard National. On a nos bureaux et aussi une petite espace de vente où vous pouvez trouver tout le catalogue normalement des éditions Wade Project dans un seul endroit. Voilà, c'est un peu notre boutique d'usine, j'appelle ça, parce que c'est juste nos livres à nous. Voilà. Alors, on ne publie pas de livres jeunesse. Ma collègue Clara aimerait bien, parce qu'elle a travaillé sur les livres jeunesse pendant ses études, et je trouve que c'est hyper important. Après, il y a d'autres consoeurs qui prennent ça en charge très bien. C'est quand même tout un autre espace éditorial, la jeunesse. Je regarde Louise, parce qu'en librairie, c'est très différent. Il y a deux maisons d'édition de jeunesse qui parlent d'écologie que j'aime beaucoup. Il y a les éditions Ricochet, qui sont nos voisines dans les Bouches-du-Rhône, et la Cabane Bleue, qui est aussi une très belle maison d'édition indépendante de jeunesse. D'ailleurs, je n'ai pas insisté sur ça, mais on est une maison d'édition indépendante, donc on n'appartient pas à un groupe quelconque. Donc, on a des comptes à rendre qu'à nous-mêmes. On a un distributeur-diffuseur qui est de taille moyenne et indépendante aussi. Donc, voilà, on n'a pas des comptes à rendre à Bolloré. Merci. J'avoue, j'aurais des choses à lui dire. On est engagé là-dessus avec d'autres collègues à travers l'association pour l'écologie du livre. Je ne sais pas si on a mis le livre sur la table. Le livre est-il écologique ? Oui, mais en tout cas, le livre est-il écologique ? Si ça vous intéresse en tant que lecteur et lectrice, de vous initier un peu à ces questions d'écologie du livre. On a publié un livre sur ça qui est le manifeste de cette association dont on fait partie, qui est une association interprofessionnelle, l'Association pour l'écologie du livre, où on travaille entre professionnels de toute la filière pour... essayer d'avancer sur ces questions, parce que même si le livre a une forte importance symbolique, quelque part, c'est aussi un produit comme un autre qui a des impacts environnementaux et sociaux, et il faut s'en occuper. Oui, c'est une question qui mérite d'être soulevée plus souvent. Alors, question de l'écologie du livre, de l'impact écologique des livres et aussi enfin, de leur impact social, de leur impact symbolique. Avec l'ASSO, on travaille aussi beaucoup la notion de bibliodiversité. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui a été attiré, qui a attiré l'attention du grand public avec cette histoire de Grasset, mais pas que, la diversité des points de vue et des voix dans l'édition ne va pas de soi, que c'est quelque chose, que cette diversité-là, cette diversité culturelle est menacée aussi, comme la biodiversité par des intérêts économiques de la société industrielle, et que cette diversité des voix, c'est quelque chose qu'il faut défendre et qu'il faut défendre activement, qu'il faut aussi aller chercher des femmes, des voix des gens des Sud, enfin d'autres voix à l'intérieur du pays aussi, et puis aussi d'autres types de littérature, enfin d'autres façons de s'exprimer. La bibliodiversité, c'est tout ça, et c'est pas un détail dans l'écologie du livre, mais c'est pas toujours évident d'en parler avec le grand public. C'est un sujet qui est assez technique, un peu d'expliquer pourquoi la chaîne du livre, blablabla. Mais en vrai, c'est la même chose que toutes les autres filières. On est sous tension. Enfin, je dis on, c'est toute la filière. Dans les maisons d'édition financiarisées, le but de l'existence même de ces entreprises et de payer leurs actionnaires. Ce n'est pas de faire des livres, c'est de payer leurs actionnaires. Donc ça infléchit beaucoup sur les choix qu'on va faire dans l'activité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai un peu oublié, mais en tout cas, si vous voulez découvrir un peu ces sujets-là, le livre est-il écologique, c'est un endroit pour commencer. Et aussi, en tant que lecteur et lectrice, je pense que ce public-là, vous le savez déjà, mais la première chose à faire est de soutenir la librairie indépendante.
Est-ce que vous êtes présent dans les différentes bibliothèques ? Est-ce que les bibliothèques vous commandent des livres ? Est-ce que vous êtes présent dans les bibliothèques ?
Absolument. Je suis fille des bibliothécaires et je suis très fière d'être que la maison est présente dans pas mal de bibliothèques municipales, dans beaucoup de bibliothèques universitaires. On pourrait être plus présente, je trouve. Mais on travaille avec les médiathèques aussi. Nos auteurs et autrices sont invités pour faire des présentations dans la lecture publique. On bosse pas mal à Marseille avec les bibliothèques de la ville aussi, localement. J'adore la bibliothèque. Je trouve que c'est un modèle extrêmement vertueux. C'est les sociétés écologiques de demain. Les bibliothèques, elles auront toute leur place. Et c'est même un modèle à développer. En termes d'écologie du livre, il n'y a pas mieux.
Vous tirez à combien d'exemplaires ? Évidemment, pas tout la même chose. Mais...
Non, ça dépend. Ça dépend vraiment. Je dirais en moyenne c'est 2000 exemplaires, parfois on tire plus. Les livres de Baptiste Morisot par exemple, on va tirer à 5000 quand on fait des tirages de Printemps silencieux, c'est plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et plus de 40 000 exemplaires vendus en France depuis 2008. Et donc quand on fait des nouveaux tirages de Printemps silencieux, on est plutôt sur du 5000 aussi. Mais ça reste des petits tirages. Je ne sais pas si vous voyez, s'il y a des gens du livre ici. Mais les derniers livres de romantessie, c'est plutôt 20 ou 40 000 exemplaires qui sont tirés à la fois, dont environ 25% sera pilonné sans jamais être lu et immédiatement transformé en carton. Voilà, c'est des problématiques matérielles de l'écologie du livre.
Vous pilonnez pas ?
On évite au maximum. On évite vraiment au maximum. On fait des tirages ajustés. On récupère au moins une partie des défraîchis. Alors les défraîchis, je regarde encore Louise, mais c'est les libraires, ils ont un droit de retour. Donc les libraires commandent un certain nombre de livres. Ça s'appelle la mise en place quand le livre va sortir. Soit ça se vend, soit ça se vend pas. Si ça se vend pas, 6 mois ou 1 an plus tard, la librairie va renvoyer le livre au distributeur. Une partie de ces livres, c'est toujours nickel, ça réintègre le stock. Mais d'ailleurs, ça nous coûte de réintégrer les choses au stock. Les maisons industrielles, ils font pas toujours de la réintégration. Hein. Souvent, c'est du pilon direct. Tous les retours sont pilonnés. Schlack. Du coup, nous, on réintègre le stock. Et en plus, les livres qui sont un peu écornés et qui sont un peu, qui ont un peu été, qui ont un peu souffert, on récupère une partie de ces livres dans notre capacité de stockage parce qu'elle n'est pas illimitée. On les récupère dans nos bureaux à Marseille. Et parfois, parfois c'est vraiment pas grand-chose. Hein. On retourne les livres, on passe un petit coup de gomme. C'est comme neuf et on le vend comme neuf. Mais ceux qui sont vraiment amochés, on va faire des braderies, peut-être 2 fois par an, dans notre quartier où on vend les livres à moins 20 ou moins 50%. Pour éviter de les pilonner. Voilà, mais c'est vraiment... Après, on n'a pas non plus des milliers de défraîchis. Ça reste petit parce qu'on a des tirages ajustés. Et puis... On est très défendu en librairie indépendante et la plupart des retours viennent des livres très médiatisés dans les grandes surfaces culturelles, Cultura, tout ça. Donc les librairies indépendantes, pas toutes, évidemment, il y en a qui ont des taux de retour. Mais la plupart vont essayer de limiter les retours, vont vraiment défendre les livres jusqu'au bout et ne vont pas abuser là-dessus. Et donc, comme on est très défendu par la librairie indépendante, ça nous aide aussi à limiter cette casse.
Combien d'auteurs ?
On a publié une centaine de livres. Il y a une centaine de livres dans le catalogue. Et il y a quelques livres qui sont par les mêmes personnes. Donc, un chiffre comme ça, plusieurs dizaines. Voilà.
Et Baptiste Morisot, lui, il est aussi édité chez Actes Sud. Ça ne pose pas de problème pour vous ?
Non, non, ça ne pose pas de problème. Actes Sud, on a déjà fait une coédition avec eux pour un autre livre de Baptiste Morisot. Les auteurs et autrices travaillent avec différents éditeurs sur différents types de livres. Pour Baptiste, on va dire que ce qu'il considère comme son œuvre philosophique, ces livres un peu sérieux qui vont le survivre et tout, ils sont chez nous. Donc il y a Les Diplomates, L'Inexploré, et il va sortir une troisième volée bientôt. C'est parce que sur ces bouquins-là, il travaille avec l'autre Baptiste, mon collègue Baptiste Nanaspez, qui est philosophe aussi. Donc il y a une certaine compétence, je pense. Ça dépend vraiment des relations entre les personnes aussi. Hein. Le livre, c'est aussi des relations sociales et intellectuelles. Et Actes Sud, c'est ces livres un peu plus pop, on va dire, qui travaillent avec eux. Voilà. Bon, après, ça ne me dérangerait pas d'avoir des livres plus pop de lui aussi. Enfin, d'ailleurs, on publie pas mal de livres... accessible, on est vraiment dans cette volonté-là, surtout avec la collection de poches. On essaie aussi de toucher le secondaire, d'aller dans les écoles. D'ailleurs, cette exposition, Lancer l'alerte, a circulé dans plusieurs collèges et lycées. On travaille avec les enseignants et enseignantes aussi sur ces questions-là, notamment les cours de philosophie en terminale et aussi le public collège avec Lancer l'alerte. Voilà, donc... j'espère que j'ai répondu à la question. Bon, Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous invite vraiment à visiter l'expo Lancer l'alerte. Et si vous voulez, on peut même se retrouver là-bas pour continuer la discussion, si vous voulez. Voilà. Et un très, très grand merci à Fred et Cyril. Ouais, vous pouvez les applaudir. Un très, très grand merci. Et encore merci de m'avoir invité, d'avoir invité les éditions Wade Project. Et voilà, à bientôt. Merci.